Bonjour à tous. Certains noms ont marqué l'histoire du sport et celui de Coubertin en fait indéniablement partie. Ce nom est à jamais, bien évidemment, associé aux Jeux Olympiques qu'il aurait rafraîchi, rénové il y a 130 ans, convaincu du bien fondé du sport, le baron Pierre de Coubertin s'était forcé de sortir de l'oubli le plus important événement sportif de l'Antiquité, les Jeux Olympiques. Férus d'histoire, les JO le fascinaient et les valeurs du sport aussi. Bonjour Christophe Constantini, Bourgois Costantini.
Bonjour ma chère Marion.
Toujours d'attaque pour ce huitième volet.
Prestigieuse aujourd'hui.
J'ai posé une petite question d'ailleurs à ce propos. Je vous propose d'accueillir aujourd'hui, figurez-vous absolument, la devinette du jour. L'héritière directe de Pierre de Coubertin, qui s'est engagée dans le sport et l'olympisme en France et partout dans le monde, dans le rayonnement du sport en particulier. Elle fait partie de ces acteurs du sport et de l'olympisme dont la mission est tout simplement de faire vivre la pensée de son ancêtre auprès des acteurs politiques du CIO. Il s'agit, Christophe, de...
Je me gratte la tête, là. C'est une sacrée colle, monsieur Marion.
Tac.
Et ça ne serait pas, Diane de Navacelle de Coubertin, par hasard.
Bingo ! Médaille d'or pour Christophe Bourgois, quand on te dit bonjour, Diane de Navacelle de Coubertin.
Bonjour à
on
vous deux.
On vous appelle souvent comme ça ou pas ?
Ah bah oui, de plus en plus d'ailleurs.
Ah bah oui. Vous qui venez évidemment de nous rafraîchir la mémoire hein, dans cet ouvrage, merci d'être là en tout cas, Diane de Navacelle. Pierre de Coubertin, éduqué par le sport et pour la paix, aux éditions Débat Public. Alors c'est vrai que j'ai appris en préparant un peu cette émission qu'en fait... C'est assez étonnant de voir que Pierre de Coubertin, en fait, pourquoi il a voulu, vous allez me dire si je me trompe, rénover, rafraîchir un petit peu, redonner un coup de peinture à ces Jeux Olympiques, c'était d'abord pour redonner des couleurs, des valeurs du sport aux petits Français et au monde entier. Est-ce que c'est vrai au niveau de l'éducation ? Mais ça, je ne savais pas du tout.
Ben complètement. Non, c'est un des vrais. Il y a deux grands fils conducteurs pour Pierre de Coubertin. Le premier, c'est contribuer à la paix. Contribuer à la paix dans le monde et ils voient le sport
par
comme
le
un
sport.
Outil de paix. Et très clairement, le deuxième, ils sont connectés hein, complètement, c'est éduquer, effectivement. Le sport, pour lui, est un outil pour se construire, pour se connaître et pour éduquer, un outil de connaissance
ouais.
Et qui permet de découvrir les valeurs, effectivement, des valeurs de vie, pas que de sport, mais des vraies valeurs.
Bah 130 ans plus tard, on a encore du mal en France hein, à reconnaître, non ? Je suis un peu, je me fais l'avocat du diable, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe ? Oui et non.
Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. Il y a des valeurs qui ont perduré. Il y a des valeurs qui malheureusement ont disparu. Il y a eu de la triche entre temps. Bon, il y en avait déjà un petit peu, mais c'était moins. Mais avec les évolutions techniques, on peut plus être un peu borderline. Et puis malheureusement, par rapport à son esprit, des disciplines ont disparu. Il avait, faut se souvenir que dans l'esprit de Pierre de Coubertin, on était plus dans un esprit grec de anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, que simplement dans la performance. Et il y avait notamment les Jeux Olympiques de la poésie.
Sans blague.
Et Pierre de Coubertin les a gagnés.
Ça l'a fait sourire, mais jusque-là, Diane de Navacelle de Coubertin.
Il y avait une médaille d'or pour la poésie. Et je regrette d'ailleurs que dans les Jeux Olympiques modernes, on n'ait pas mis plus de disciplines comme celle-ci.
Ouais.
Mais après, on n'en finirait pas. Parce que, vous savez, les JO, ça représente quand même, c'est l'équivalent de 34 Coupes du Monde de foot en même temps.
C'est impressionnant.
Que ce soit dans l'organisation.
C'est une bonne comparaison.
Donc, 35 Coupes du Monde.
Donc vous voyez, c'est quand même du boulot. Mais son esprit perdure, à part quelques citations, mais ça on en reparlera plus tout à l'heure,
ouais.
Qui sont malheureusement un peu trop réductrices de son œuvre. À part aussi peut-être quelque chose d'un peu souffroteux, on va dire, par rapport à l'époque, et notamment la montée du national-socialisme, sous la commande d'Hitler, où on en reparlera également avec notre chère héritière, mais globalement, il a laissé effectivement une image mondiale qui est beaucoup plus importante d'ailleurs dans le monde qu'en France.
Alors, effectivement, Diane Navacelle, en préparant l'émission, vous me disiez que quand on demandait à des enfants, des ados, même des adultes qui étaient Pierre de Coubertin pour eux, alors un coup c'est un joueur de foot, un coup c'est un peintre, un coup c'est un homme politique, en fait on ne sait pas du tout qui c'est quoi, ouais, ce que vous
fait,
me disiez.
Non mais c'est très vrai, moi je me rends compte beaucoup sur le terrain justement et en intervenant auprès de plein de publics différents, en France et ailleurs d'ailleurs, mais j'ai envie de dire plus en France que dans le monde d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a une vraie méconnaissance de qui est Pierre de Coubertin et une vraie connaissance de l'olympisme. Tout court. pas uniquement de pierre, en fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage et un peu triste, surtout à la veille de recevoir les Jeux dans notre pays, qui est quand même celui qui les a fondés avec pierre. Donc, c'est un Français, on pourrait être fiers. Ça, c'est quelque chose qui est quand même dommage de qu'on ne le dise pas, qu'on ne le sache
c'est
pas.
C'est vrai qu'on ne le dit pas assez.
Et puis, bah, comprendre aussi un peu ce que c'est que cet olympisme qui n'est pas juste les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est génial et c'est le point d'orgue et c'est ce moment qui rassemble le monde entier, les 206 pays qui vont venir en France.
Ouais.
Mais c'est en fait beaucoup de choses en amont et beaucoup de choses après. Et l'olympisme, c'est ça, c'est une philosophie de vie. Ça ne se vit pas que pendant les Jeux, ça se prépare, ça se construit et c'est tout au long d'une vie au final.
Est-ce que vous ne croyez pas que
Christophe,
il arrive aussi à une époque où il initie un petit peu une forme de mariage entre les Jeux Olympiques et la géostratégie? On a quand même l'impression qu'il y a une première époque des Jeux où on est quand même dans le jeu. Et ensuite...
Le jeu pur, quoi, le jeu pour
pur,
les mains.
Ouais. Et là, on arrive à une époque où les politiques s'en emparent de plus en plus, la géostratégie
c'est
est
intéressant
là,
comme question,
les alliances, non-alliances. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, aujourd'hui... Vous êtes en train de parler d'aujourd'hui, là.
J'ai oublié de préciser que la question du jour posée dans l'émission, c'est qui sont ceux qui s'engagent pour promouvoir le sport et l'esprit des Jeux Olympiques. Donc là, on parle d'aujourd'hui. Allons-y.
Aujourd'hui. Alors, oui, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ce n'est pas nouveau. J'ai envie de dire que les Jeux, ils ont été instrumentalisés assez vite, et déjà même de son époque. Et le plus bel exemple, c'est 1936. On le connaît tous, mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a plein d'autres tout au long de l'histoire. On pourrait parler des Jeux de 1972, qui ont aussi une connotation très actuelle. Voilà, donc il y a plein de Jeux qui ont été instrumentalisés de manière positive, ouais, de manière négative. On peut dire les Jeux de 68 aussi, de Mexico, où on a ce point levé avec Tommy Smith. Là, on est sur un autre sujet, le racisme aux États-Unis. Et donc, cet athlète qui prend parti et qui va lever ce point pour justement manifester sa colère et baisser la tête au moment où le drapeau américain est levé.
Il y a deux athlètes,
lui, absolument, et le deuxième. D'ailleurs, ils ont deux gants, un droit et un gauche, parce que celui, le deuxième, avait oublié ses gants. Donc, ils ont pris chacun, ils sont partagés l'un et partagés
sans
l'autre.
Oui,
c'est vrai. Mais en tout cas, oui, les Jeux, c'est pas leur objectif. En revanche, ça, c'est important de le rappeler. Ça n'est absolument pas l'objet des Jeux Olympiques d'être politisé, instrumentalisé, et que les hommes publics, entre guillemets, les utilisent de manière détournée, voire leur fassent dire des choses qui ne sont pas l'objet des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et l'olympisme, c'est avant tout du sport, c'est avant tout de l'humain, c'est avant tout une rencontre des cultures, des hommes et des femmes du monde.
Quel est l'objectif, en fait, dans ce livre et dans votre mission? Vous allez nous parler un petit peu, c'est l'occasion de parler de ce que vous faites, parce que nous parlons d'engagement aujourd'hui autour du sport, autour de cet événement interplanétaire, enfin en tout cas planétaire, que sont les Jeux Olympiques, Diane de Navacelle de Coubertin. Quel est votre, s'il y avait un mot, s'il y avait une seule mission aujourd'hui pour vous, c'est laquelle au fond? De transmettre les valeurs du sport, c'est quoi exactement?
Je dirais que, là, il y en a beaucoup en fait, un mot c'est difficile, mais peut-être si je devais dire un mot aujourd'hui, ce serait l'écoute.
C'est-à-dire? C'est l'écoute.
Ben, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi, et pas être le nez dans le guidon, derrière nos écrans, derrière des choses qu'on ne vérifie pas, derrière, voilà, l'écoute. Prendre le temps d'écouter. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, où les gens ne prennent plus le temps de vérifier leurs sources, où les gens ne prennent plus le temps de vraiment apprendre. Ou quoi. Enfin, tout va tellement vite, en fait. On est dans des snap tout le temps. Enfin,
ouais.
Et ça, eh ben, c'est dommage, parce que je pense qu'on perd une qualité humaine qui est une de nos forces, qui est justement de pouvoir prendre ce temps et de le partager et de le vivre ensemble. Ces mots-là, voilà, ensemble, partage, écoute, c'est des valeurs de l'olympisme et c'est peut-être des mots qui, aujourd'hui encore, sont extrêmement modernes et actuels.
Ouais. Christophe.
Est-ce que, selon vous, votre ancêtre était un visionnaire ou est-ce qu'au contraire, il était plutôt totalement... il sentait l'actualité présente?
Alors,
si on se réfère à 1936, par exemple.
Ouais. Moi, je vais vous dire, pour l'avoir lu, parce que...
Le fameux manifeste,
ben, plus que ça, mais beaucoup plus que ça, parce que pour écrire ce livre, j'ai dû lire un peu plus que juste ce manifeste. Et pour information, il a quand même écrit 16 000 pages. Alors, je vous rassure, je n'ai pas lu les 16 000 pages.
16 000 pages?
Ouais, 34 œuvres, 34 bouquins.
Sur quoi? Sur le sport?
Sur le sport,
sur...
Absolument. C'est absolument tout autour du sport, de la vie, des observations qu'il a pu faire, des voyages, des remarques, en fait. Beaucoup d'observations. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui, observer.
Et,
ouais,
comme ça.
Mais... pardon, je...
c'est vrai.
Mais moi, j'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est que oui, je pense qu'il était visionnaire, parce que je pense qu'il était avant-gardiste, et je pense qu'il était très clairement en avance sur son temps et sur son époque. Mais ce qui est assez amusant, oui. Et ça, j'ai vraiment pu me rendre compte en le lisant, c'est qu'il était très lucide. Était très lucide sur ce qui se passait, sur la capacité des gens à entendre ses idées nouvelles ou à ne pas les entendre. Et donc, il savait très bien, parfois, qu'il allait, entre guillemets, faire un coup d'épée dans l'eau, qu'il avait des ennemis, qu'il allait devoir...
Qui étaient ses ennemis ?
Oh, il en avait plusieurs. Hitler en ferait partie. Il avait aussi beaucoup d'alliés, et heureusement, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. On ne fait pas un projet pareil seul. On a besoin de s'entourer d'hommes forts, d'hommes intelligents. Et je dis des hommes parce qu'à l'époque, c'est bien évidemment des hommes. Hein. Il n'y a pas vraiment de femmes qui ont des pouvoirs d'influence à ce moment-là, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui était, oui, très clairement visionnaire. Parce que quand vous voyez les choses aujourd'hui qu'il a dites il y a 130 ans, et que vous les dites aujourd'hui.
Comme, allons-y.
Il y a des phrases qui sont très connotées, allez-y. Mais il y en a qui sont très, très modernes. Alors, je vais vous en donner.
L'essentiel, c'est de participer, c'est bon. Hein. On la connaît, Diane, on n'a pas besoin de vous.
Bon, ça tombe bien, parce que celle-là, on est d'accord, ça n'est pas la phrase de Pierre
en plus,
de Coubertin.
Il paraît que c'est même pas la tienne. Bon,
ben ouais. Non. Elle a été dite par quelqu'un en 1908, par un archevêque de Pennsylvanie. Oui, absolument, au jeu de Londres, pour encourager les équipes américaines. Pierre a entendu ça lors d'un sermon et il a trouvé que c'était dans l'esprit des jeux.
Donc, il l'a repris.
Non, il ne l'a pas repris. Il a quand même dit, c'est pas tout à fait ça, les jeux. C'est pas juste participer. On s'entraîne pas pendant 4 ans pour juste participer quand même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est alors quand même une compétition, c'est quand même des Jeux Olympiques.
Ouais.
Donc en version plus courte, enfin en version plutôt aussi courte, ce que lui, il a réellement dit, c'est l'important est de s'être bien battu.
Waouh, magnifique.
D'accord.
C'est quand même très différent. Hein.
C'est très différent.
Christophe, regardez.
Mais c'est très différent parce que je pense que dans la tête de n'importe quel athlète, et au final même j'ai envie de dire de n'importe quelle personne, ça a beaucoup plus de sens. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas toujours en fait dans la vie. On aimerait bien, mais en tout cas c'est ce qu'on va viser, ça c'est sûr. En revanche, si on se bat bien, qu'on donne le meilleur, qu'on fait tout ce qu'on peut, et que ce jour-là on ne gagne pas, au moins, on repart la tête haute.
Sauf que je me permets de vous reprendre. Ça veut dire qu'on a gagné quoi qu'il arrive.
Exactement.
On a gagné une victoire. C'est ça.
Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais on n'a peut-être pas gagné la médaille d'or qui, ce jour-là, était... Voilà. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné un combat sur soi, qu'on a gagné un combat sur la vie et que, clairement, on est dans les valeurs de l'olympisme. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que c'est aussi quelque chose qui touche tout le monde et pas seulement les sportifs. C'est qu'au final, si on fait ça dans tout dans la vie, parce qu'on peut faire ça dans tout dans la vie, pas que dans le sport, si on se bat bien pour les gens qu'on aime, pour les choses auxquelles on croit, pour nos rêves, et qu'on ne laisse pas les gens nous décourager, nous dire que ça n'est pas possible, ce que beaucoup de gens ont fait vis-à-vis de Pierre. Les bâtons dans les roues, il les a connus. Aucun athlète, aucune personne qui réussit quelque chose ne connaît aucun échec. C'est pas possible. Donc c'est ça aussi, c'est un chemin de vie. Et au final, si on se bat bien, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement là où on veut.
Alors les phrases, pardon parce que
non,
j'ai oublié ces phrases, vous savez Christophe, on les veut ces phrases, citations.
Alors il y en a plein, je ne sais même plus par laquelle pour vous donner, mais je vais vous en donner déjà une que j'aime beaucoup et qui parle du sport cette fois-ci. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. On est vraiment dans cette idée de dépassement de soi. Et c'est ce sport qui va vous permettre de découvrir ça, en fait. Déjà, de commencer à connaître vos limites pour pouvoir ensuite les dépasser et les repousser.
Ouais.
J'avais... il ne fait aucun doute que votre ancêtre n'avait rien de proche avec le régime hitlérien, ça c'est certain.
Oui.
Encore une fois, c'est aucun jugement de ma part, et puis c'est tellement facile de juger l'histoire après... Il est à un moment donné, en 1936, lorsqu'on redynamise les Jeux, puisqu'il y a eu des guerres précédentes qui sont interdites, on est sur des symboles très national-socialistes. C'est-à-dire que pour nos auditeurs, il faut qu'ils comprennent que les futurs SS en place et les nazis en place se disent « Tiens, tous ces symboles grecs, miam, 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 comme c'est bon, c'est blond aux yeux bleus, etc. » On va essayer de s'inspirer de ce qui se faisait dans la Grèce antique et voir, on va même inventer des choses. C'est-à-dire, encore une fois, le parcours de la flamme n'a jamais existé. L'allumage de la flamme en elle-même n'a jamais existé, etc.
C'est d'ailleurs la première fois qu'on la voit en 1936, au Jeux de Berlin.
Exactement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dû penser, Pierre de Coubertin, en voyant ça, lui qui voulait justement peut-être réunir tout le monde. Vous croyez qu'il a senti monter ce national-socialisme? Vous croyez qu'il a fait attention à ces codes qui, malheureusement, vous l'avez dit vous-même, c'est très politique, le CIO, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a des influences de toutes parts, donc là aussi, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Qu'est-ce qu'il en a pensé, d'après vous?
Lui qui était lucide, disiez-vous d'ailleurs.
Oui, complètement. Alors là, il faut quand même rappeler qu'il a l'âge de 73 ans à cette époque-là, ce qui est plus un âge très jeune quand même, et qu'il est à la veille de sa mort quand même. Il meurt en 1937.
D'accord.
Donc il ne va pas aller à ces Jeux de Berlin, contrairement à ce que certains peuvent dire. Il a été invité, évidemment. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'en 1916, les Jeux qui n'ont pas eu lieu, puisque c'est en pleine guerre mondiale, et les deux seules fois où il n'y a pas les Jeux, c'est les deux guerres mondiales, les Jeux étaient prévus à Berlin. Donc il y a eu quelques courriers qui ont été échangés, et je dis quelques parce qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, et pas de deux, qui évoquaient ces Jeux, évidemment. Quand les Jeux sont attribués à Berlin pour 1936, Pierre, ça fait 11 ans qu'il est sorti du CIO, qu'il n'est plus le président du CIO, et qu'il est même, on va dire, très gentiment mis de côté, parce qu'on le considère un peu has-been, et puis que les nouveaux, ils ont envie de prendre la place, soyons clairs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il va être sollicité par Hitler et par les Allemands qui veulent essayer d'avoir un maximum de lumière sur ces Jeux et qui vont faire ce que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Alors, la cause et la raison, ça, c'est ce qu'on peut questionner très clairement. En revanche, ce qui est certain et ce qui est incontestable, si on parle purement des faits, c'est qu'ils ont créé le plus grand stade qui n'ait jamais existé. Qu'ils ont mis des moyens financiers pour ces Jeux olympiques que personne n'avait jamais mis. Qu'il y avait des radios, qu'il y avait même pour la première fois des films avec cette... Mais oui, c'est les premières fois que les films sont vraiment avec des propagandes, exactement. Donc, attention, il ne faut pas tout mélanger. Et c'est là où on a besoin d'un peu de discernement et de connaissance, justement, pour pouvoir bien comprendre les choses. C'est que Pierre, il voit quelque chose qu'il a rêvé de pouvoir faire. Donner des moyens aux sportifs, donner des moyens aux Jeux Olympiques.
C'est même la première fois qu'on loge les athlètes au cœur de la ville.
Au cœur de la ville.
C'est intéressant, ça, absolument. C'est une belle évolution.
Oui, absolument. Alors, en 24, quand même, il avait quand même fait quelque chose pendant les derniers Jeux où lui est président, et ça, c'est important de le souligner, c'est lui qui a créé aussi le village olympique. Et ce fameux village olympique avait quand même vraiment pour objectif, des objectifs concrets et pratiques, qui étaient de permettre de moins se fatiguer, de déplacement, de ne pas se perdre, de plein de choses comme ça pour les étrangers qui venaient quand même dans un nouveau pays. Et aussi de créer de nouveau cette espèce de lieu de rassemblement où ces athlètes du monde entier, ils vont pouvoir en fait s'entraîner ensemble, ils vont pouvoir avant, après, déjeuner ensemble, parler, échanger, donc vraiment amplifier au-delà de la compétition vraiment ce lieu de partage culturel. Voilà.
Alors c'est vrai que pour terminer, parce que malheureusement l'émission passe très 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 vite en votre compagnie, Diane, vous avez parlé de notamment son... En fait, il a écrit des milliers de pages, je ne savais pas, y compris sur l'éducation. Il a mené toute une réflexion, je crois, sur l'éducation. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, vous reprenez cet extrait. « Le maître, dit-il, est déguisé en ennemi, et tant qu'il n'aura pas mis bas à ce déguisement, on le détestera. Une fois encore, dites-vous, Pierre ne mâche pas ses mots et dresse un sombre tableau de l'enseignement tel qu'il est pratiqué en France. On a l'impression que c'est d'une école malade qu'il parle, dites-vous. »
Je voudrais juste rebondir, pardon, parce que je voudrais répondre par rapport à votre question sur les Jeux de 36. Je voudrais vous donner une citation de Pierre de cette époque-là, parce que évidemment, il est très chahuté là-dessus. Donc voilà, une citation que je trouve assez intéressante et qui date de cette époque-là, c'est-à-dire il y a un siècle et demi quand même, je le rappelle. Donc, en décrivant les épreuves de Saint-Louis qui avaient eu lieu en 1904, où il y avait eu quand même des choses assez dramatiques qui s'étaient passées, et où il y avait eu en fait vraiment du racisme très clairement montré, il va dire que c'était une mascarade outrageante. Et il prédit qu'elle disparaîtra bientôt. Parce que lorsque ces noirs, ces rouges, ces jaunes apprendront à courir, à sauter, à lancer et laisseront les blancs derrière eux, et là, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un sentiment raciste. Il critique d'ailleurs ce racisme du sud de l'ouest. Eh bien, il dit que les Français vont à ce moment-là... Enfin, pas les Français, pardon. Les races n'auront plus lieu d'être. C'est-à-dire que ces différences qu'on fait à ce moment-là, elles doivent disparaître. Et elles n'ont pas de sens. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à chaque fois. Il le dit dans à plein de niveaux. Et il le dit parce qu'il voulait aussi, en 1923 déjà, tenter de lancer les Jeux africains. Et là, il s'est heurté à beaucoup d'opposants, colonialistes notamment. Et il va les qualifier d'ignorants, à ses préjugés tenaces, notamment celui de l'infériorité de l'Afrique.
Merci infiniment, Diane de Navasselle de Coubertin. Merci aussi à vous, Christophe Bourgois-Costantini.
Merci,
votre livre, Diane de Coubertin, je le rappelle, c'est Pierre de Coubertin, éduqué par le sport et pour la paix, les grands textes de Pierre de Coubertin commentés par vous. Petite nièce, de ouais. Pierre de Coubertin, publié aux éditions Débat Public. Et je rappelle également le vôtre pour finir, Christophe, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diateno. Merci les amis.
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous.
Bonne journée.